la dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet, on vous retrouve.
Merci Antoine Mercier. Vous savez, régulièrement dans la dernière partie, nous plaisons à parler de littérature sous un angle, disons, théorique, sous un angle réflexif. Des essais paraissent régulièrement qui nous en donnent l'occasion. Ce fut le cas avec cet essai sur lequel nous allons parler aujourd'hui, La littérature sans idéal, signé Philippe Villain, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
La lecture de votre essai, Philippe Villain, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous réfléchissez à votre pratique régulièrement. Cette lecture donc de la littérature sans idéal qui paraît chez Grasset nous a donné envie d'organiser un dialogue croisé avec un autre écrivain qui est Olivier Cadio. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Cadio qui signe le premier volet, le premier tome d'une histoire de la littérature récente qui est en fait une histoire très personnelle et qui n'est même pas vraiment une histoire, qui est une sorte d'enquête, qui n'est pas non plus vraiment une enquête. Bref, c'est un livre qu'on ne peut pas classer et je pense que c'est voulu de votre part. Olivier Cadio, ce livre paraît aux éditions POL, mais l'un des points communs à vous deux, c'est que dans les deux cas, vous réfléchissez en tant qu'écrivain à votre pratique d'écrivain et à ce qu'est le champ de la littérature dans lequel vous évoluez. Olivier Cadio, en vous posant par exemple une question qui est pourquoi continuer à écrire quand tout le monde vous dit sans arrêt que plus personne ne lit et que de toute façon ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est l'une des questions qu'on peut trouver dans cette histoire de la littérature récente. Philippe Villain, votre littérature sans idéal se présente peut-être plus clairement comme un essai. Un essai qui répond, sans doute, qui fait écho à plusieurs autres, comme la littérature sans estomac de Pierre Jourde en 2002, qui lui-même faisait référence à cette littérature à l'estomac de Julien Gracq il y a un peu plus de 60 ans maintenant. Un essai qui affirme clairement la littérature cesse d'être un art purement littéraire. Alors je pense qu'on pourrait s'arrêter sur chaque terme de cette phrase. Pouvez-vous le faire à notre place ? Déjà, ça veut dire qu'elle l'a été, qu'elle ne l'est plus.
Oui, c'est un assez bon résumé. Je dirais que lorsqu'on s'efforce d'examiner lucidement, le plus objectivement possible, la littérature à ce tournant de siècle, il me semble que l'on est forcé de faire quelques constats. Des constats qui ne sont pas nouveaux d'ailleurs, qui ont déjà été décelés par Hannah Arendt au début des années 60 dans la crise de la culture, à savoir une inféodation des arts et en l'occurrence de la littérature à la marchandise. Cet essai donc se veut une sorte de diagnostic de ce paysage littéraire qui me semble effectivement avoir troquer son idéal littéraire contre un idéal marchand. Il me semble que la littérature aujourd'hui a perdu sa croyance en un idéal purement poétique, en un idéal poétique supérieur et transcendant. Dès lors que cette littérature ne fait plus de la langue son enjeu, son immanence, son absolu, et alors il me semble qu'elle s'éloigne des territoires, non pas de la littérature, mais des territoires du littéraire même. Elle a perdu, il me semble, son idéal poétique et littéraire et aussi son idéal historique. Elle ne semble avoir plus de conscience historique.
C'est toujours difficile en même temps, Philippe Villain, et vous le savez très bien, mieux que personne, parce qu'en plus vous êtes un écrivain vous-même, de faire des généralités en disant la littérature dans votre livre.
Bien sûr,
vous,
bien sûr.
Vous prenez ces précautions-là, justement,
bien sûr,
en disant que c'est peut-être une forme de littérature qui serait dominante, majoritaire.
Bien sûr, vous avez raison de le citer.
C'est important, oui. Sans doute, pour les auditeurs qui nous écoutent.
Oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, c'est une note de bas de page qui est la plus volée.
Vous ne mettez pas tout le monde dans le même sac, parce que des catégorisations. Peut-être qu'on peut en dire un mot.
Tout à fait, oui. Alors d'abord,
Et pourquoi ça poserait un problème, puisque une certaine forme d'auteur demeure, reste.
Bien sûr.
Pourquoi est-ce que, bon, qu'il y ait après des gens qui font plutôt des œuvres pour vendre, disons,
oui. Alors,
ça serait gênant,
fondamentalement. Je m'intéresse à ce qu'on pourrait appeler la littérature majoritaire, à savoir celle qui est la plus plébiscitée, la plus primée et la plus vendue. Celle qui compose en majorité le champ littéraire aujourd'hui et celle dont on parle le plus. Alors c'est un parti pris évidemment, mais mon essai n'a pas non plus une dimension exhaustive. Il s'agissait pas de faire, sinon j'aurais fait une deuxième thèse. Et bon, c'était pas du tout l'objet de mon travail. Et alors effectivement, mais peut-être ça sera parce que j'envisage d'écrire une suite à cet essai. Donc peut-être que le prochain ça sera.
Ah bah aussi, c'est un premier tome en fait.
Oui.
Comme Olivier Cadio.
Sera sur la littérature minoritaire, celle qui est peut-être à mes yeux plus exigeante, plus poétique et plus littéraire. Donc évidemment, il y a un parti pris. Et qui peut être contestable, mais je prends soin évidemment de
alors,
le signaler.
Il faut quand même dire quelques noms peut-être de ces personnes, de ces auteurs qui resteraient selon vous dans l'idéal du littéraire.
Olivier Cadio par exemple.
Non, je sais pas, puisque pas si parlons un peu de choses concrètes.
Concrètement, peut-être, je sais pas, mais je suis pas là pour donner des noms comme ça. C'est toujours un petit peu délicat de s'instaurer gendarme de la littérature.
Non, ce qu'on peut faire peut-être pour vous, parce que là vous avez pas la liste sous les yeux et elle est assez longue, mais on l'a relevé pour vous.
Allez-y.
Mais vous dites, vous citez un certain nombre de livres, Philippe Villain, que vous avez récemment aimé.
Oui,
bon,
voilà.
Il y a par exemple Apprendre à finir de Laurent Mauvignier, L'énigme du retour de Dany Laferrière, Grâce leur soit rendue de Laurette Nobécourt, L'amour sans le faire de Serge Joncourt, L'enfant éternel de Philippe Forest, En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis ou Naissance d'un pont de Maïlise de Kerangal. Je vais m'arrêter là, la liste est encore, longue.
J'ai pris soin de mettre etc. Donc j'en oublie évidemment. Donc tout cela était pour dire que la littérature littéraire, ce que j'appelle ça ainsi, existe, a toujours existé et continuera d'exister. Elle a un avenir. Seulement, je pense qu'elle n'est pas peut-être assez promotionnée.
Sur cette idée, qui est une idée qu'on pourrait schématiser, même si c'est pas très heureux, parce que je pense que le livre est plus subtil que cela, malgré tout, mais cette idée de déclin, de fin, puisqu'elle a perdu, disons, elle a perdu quelque chose qu'elle avait avant, Olivier Cadio. Alors vous, c'est très clair, vous le dites dans votre histoire de la littérature récente, ça ne peut plus durer cette histoire de fin.
Oui, c'est vrai que c'est épuisant, mais c'est pour ça que d'ailleurs le livre dont nous parlons...
La littérature sans idéal.
Voilà, et un livre très intéressant parce qu'il donne des points précis. C'est un vrai essai assez documenté, je trouve. D'ailleurs, je suis intéressé par l'idée de la fin. On en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Je trouve ça intéressant. Et il est évident que je souscris à cet œil de lynx que vous posez sur la question. Moi, simplement, je suis un peu usé parce que c'est une question que j'ai connue aussi il y a 30 ans quand je viens de la poésie un peu. Je ne sais pas quel mot employer déjà.
Expérimental, on dit souvent de vous,
oui, ça veut rien dire. Oui, mais bon.
Mais vous dites que vous aimez bien expérimental dans le livre.
Je sais pas, parce qu'il n'y a pas tellement de poésie. Et déjà, le combat était, c'est la guerre contre, je sais pas, il y avait Solers contre Dormesson. Enfin, la situation était plus calme. Il y avait vraiment les gens qui faisaient de la vraie littérature, ceux qui faisaient de la fausse. Et puis, disons que, à partir des années 80, les mouvements c'est très subtil et compliqué. Il faudrait un vrai historien
peut-être.
De la littérature récente, je sais pas. Mais du coup, moi, j'ai une certaine usure avec tout ça et j'ai senti aussi que je devenais aussi décliniste un peu. C'est-à-dire que chaque entrée littéraire, je disais, oh, c'est épouvantable, le niveau baisse. C'est un peu comme les gens qui disaient.
Je ne le suis pas, si je peux me permettre.
Non, pas vous. Non, mais que je devenais un décliniste par rapport aux déclinistes qu'on déteste, si vous voulez, qui nous entourent, les gens qui se plaignent en permanence. Voilà. Et je me suis rendu compte que je commençais à rentrer dans la chorale un peu. Donc voilà, ce livre-là, c'est pour dire. Peut-être qu'il pourrait venir après le vôtre, enfin après. Prenons vos conclusions. On fait un essai à deux, finalement. On fait la première partie, moi la deuxième. Moi, je dis, bon, maintenant, on arrête ça. Et on va s'occuper de la littérature en se rapprochant beaucoup plus près du problème. Oui. Je fais juste une petite comparaison dans le livre. Je prends une phrase, c'est une comparaison de Proust très, très belle qui dit un livre, ça se prépare comme une robe ou comme une guerre. Oui. Alors, avant, j'étais plus dans la guerre. Là, je m'approche plus près des fusils ou des robes. Donc, j'ai l'impression de m'y perdre, ce qui fait que le livre, par l'absurde, devient, je l'espère, ça, c'est pas à moi de le dire, de la littérature sans le vouloir ou malgré elle. Puisque c'est pas un essai, il y a pas de thèse vraiment à défendre.
Ouais. Je pense qu'en fait, on parle de la même chose tous les deux. On dresse un même constat d'une crise de la culture, sauf que Olivier le fait en proférant une sorte de parole poétique et en illustrant le problème, et moi je l'explique en fait. C'est la seule différence, mais
très complémentaire.
Je trouve que c'était bien de nous inviter tous les deux parce que ça se complète parfaitement.
Et Olivier Cadio vient de prononcer un nom qui est très important pour vous, Philippe Villain, qui est le nom de Proust, puisque dans votre ouvrage, vous dites que l'un des symptômes de ce désenchantement de la littérature pour vous est que la littérature, c'est plus sélinisé que proustisé, par exemple, l'oralité dans un certain nombre d'ouvrages, l'oralité, mais aussi les références à imagières, visuelles, cinématographiques, vous semble être une des preuves que Céline l'aurait remporté sur Proust. Mais là, il faudrait que vous développiez un peu.
Alors oui, je dis que la littérature s'est davantage célinisée qu'elle ne s'est proustisée. En ce sens que ce qui prédomine aujourd'hui, c'est une littérature basée sur l'expression, l'oralité. Et aussi également avec dans des narrations, à mes yeux, un peu simplifiées, qui reposent sur l'alternance de dialogues. Il y a beaucoup de dialogues, de plus en plus de dialogues, et des descriptions d'actions. Contre une littérature qui serait une littérature plus rationnelle, une littérature de réflexion, et qui, à mes yeux, commence à disparaître. Ou à tout le moins, si elle existe déjà, on ne la met pas en valeur. On ne la met pas en valeur. C'est la différence, en fait, entre Proust et Céline. J'ai pris deux grands monuments comme ça. Mais c'est pour évidemment incarner notre époque.
Vous pensez
les gens que vous citiez dans cette liste sont justement ce qu'on pourrait appeler la qualité française. Au contraire, c'est les gens les plus fêtés.
Bien sûr.
Ils sont défendus énormément, ce qui est à juste titre par la presse, même par des ventes, certains très importants. Donc ils sont pas
Mathias
vraiment.
Mathias Sénard, par exemple.
Non, oui, enfin,
tout à fait.
C'est pas des gens qui sont. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pas des gens qui sont marginalisés du
non,
tout.
Non, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Votre. Non. Là, juste, j'avoue, c'est étrange pour moi parce que c'est des gens fêtés à un point.
C'est vrai. C'est même les seuls qui vivent
de leur travail en France à peu près, en faisant un travail de bonne qualité, comme Echnoz.
Ce sont évidemment
Pierre Michon, par exemple aussi. Enfin.
Tout à fait, mais ce sont finalement, on les compte sur le doigt des deux mains. Des deux mains, c'est
ça a toujours été le cas.
Oui, peut-être. Mais il me semble que beaucoup d'écrivains restent dans l'obscur. Il me semble ceux qui pratiquent ce type de littérature et celle qui reste malgré tout la plus valorisée me semble être celle qui est moins réflexive. Alors exception faite effectivement de Mathias Sénard. Cette année, j'ai trouvé évidemment le prix Goncourt tout à fait opportun et vraiment très, très pertinent.
De toute façon, il y a toujours des exceptions à la règle.
Oui,
c'est
tout
ça
à
que
fait,
vous
c'est
dire,
ce qui me semble, évidemment. Évidemment.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
La littérature est-elle encore un art littéraire? C'est la question que nous nous posons après lecture de La littérature sans idéal de Philippe Villain et autour de la table pour dialoguer avec lui, l'écrivain Olivier Cadiot qui publie le premier tome d'une histoire de la littérature récente et Antoine Mercier qui vous pose une question, Philippe Villain.
Voilà, au bout de 10 minutes, j'ai pas bien compris si ça se dégradait ou pas finalement, si vous voulez pas être décliniste. En même temps, vous dites qu'il y a toujours de bons auteurs et il y a toujours eu des bons auteurs, de mauvais auteurs, les mauvais auteurs étant parfois plus lu que les bons, c'est pas nouveau. Donc, est-ce que, sur le fond, vous pouvez nous dire qu'il existe aujourd'hui quelque chose qui se dégrade, qui serait peut-être en rapport aussi avec une situation plus large de la société, de la politique, etc., de la personne, pour que votre analyse puisse prendre, j'allais dire, corps sur le plan général, se structurer, que ce soit pas uniquement une impression que vous dégagez.
Ça n'est pas véritablement une impression. Je pars de constats, en fait. Il n'y avait pas véritablement de thèse, et encore moins, je voulais partir sans a priori idéologique et sans verser dans les thèses déclinistes et les prophéties catastrophistes qu'on a l'habitude de trouver dans certains essais. Ça n'était pas du tout mon cas. Mais en partant de constats qui sont à mes yeux irrécusables, c'est-à-dire que la perte de l'idéal esthétique, la perte de l'idéal historique, ça, ce sont des choses qui me semblent constituer le cœur même de l'écriture
contemporaine.
Pourquoi
il n'y aurait pas d'idéal dans l'oralité, par exemple? On prend Céline, on parle de Céline, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de style.
Vous avez raison, mais on peut dire aussi, pour celui qui pratique l'écriture, c'est bien que l'écriture orale est aussi la plus facile, l'écriture d'expression est aussi la plus facile à trouver. Elle est techniquement plus accessible que l'écriture réflexive.
Il y a quelque chose que peut-être Olivier Cadiot partagera avec vous, Philippe Villain. C'est l'idée selon laquelle certains écrivains d'aujourd'hui ou des 30 dernières années se focalisent sur le présent. Donc sur des sujets qui ne sont pas des sujets liés à l'histoire et plus que cela sur un sujet. C'est la focalisation de l'attention sur le sujet, l'ambition littéraire, dites-vous, ayant était rabaissé ou simplement voulant incarner un esprit du temps. Ce qu'on appelle classiquement aujourd'hui ou communément une littérature sociologisante. Vous faites un constat de cette littérature comme ayant pris une place très importante aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je pense que ce qui prédomine aujourd'hui, c'est la littérature du sujet, au détriment justement d'une littérature plus écrite. J'ai justement essayé de... En adoptant encore une fois un point de vue neutre, c'est peut-être ce qui vous embête justement, c'est que je suis difficile à catégoriser, mais j'ai pas voulu justement prendre de parti pris véritable. En diagnostiquant ce que j'appelle le post-réalisme, à savoir ce nouveau moment littéraire. Mais c'est ça qui est fabuleux justement. C'est que nous sommes dans cette littérature à ce tournant de siècle, dans un nouveau moment littéraire qui est ce post-réalisme, à savoir après le réalisme du 19e siècle où il s'agissait de refléter le réel, d'être une sorte de miroir du réel, après le surréalisme où il s'agissait en quelque sorte, et pour le dire évidemment de façon substantielle, de le sublimer, on est avec le post-réalisme dans un désir de réinventer ce réel en le subjectivant, en le transformant. Et en même temps, en nourrissant, comme vous l'avez dit, Caroline, une sorte de fantasme de l'apocalypse, hein, du goût du malheur.
Vous pouvez donner un exemple, peut-être ?
De goût de... Alors ça me vient pas là.
Peut-être sur le 11 septembre, non, par exemple.
Pardon.
La littérature.
Oui,
autour
sur le 11 septembre. Peut-être que j'ai mis comme chef de file de ce post-réalisme Frédéric Beigbeder avec Windows on the World, qui à mes yeux a été le premier peut-être à incarner cette tendance. Alors visiblement ça lui a pas plu, mais pour moi ça n'était pas du tout quelque chose de dépréciatif. C'est quelque chose qui me paraît incarner en tout cas la valeur littéraire de ce temps-là.
Olivier Cadio, sur cette idée d'une littérature du sujet qui primerait ?
Bien sûr, c'est une évidence, non ? Enfin, je pense que c'est un
constat.
Je sais pas quoi en dire, sinon
oui,
bien sûr, oui. Enfin, on a intérêt si on veut. Parce que vous parlez surtout du marché du livre, au fond. Si on veut vendre des livres, bon, on a intérêt à avoir un sujet, quelque chose qui soit. On peut faire un pitch assez rapidement. Mais ça fait depuis très longtemps. Enfin, voilà, donc simplement. Bon, ça s'est accéléré. Il y a toujours un tour de vis.
Non,
ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est surtout la dernière idée quand vous dites, bon, alors, tant qu'à faire, si on est vraiment dans un marché du livre dégoûtant, atroce, avec vraiment des gens complètement, qui ont abandonné tout projet littéraire, on verra après ce que ça peut être un projet littéraire. Je sais pas si c'est une affaire de style, d'ailleurs, c'est une question que je voudrais éventuellement vous poser, mais bref, à la fin, vous dites, ah bah alors, soyons vraiment, allons avec le capitalisme tardif maximum. Mais pourquoi, à ce moment-là, n'y a-t-il pas des segments? Pourquoi chez L'Oréal, par exemple, il y a des rouges à lèvres numéro 22B qui se vendent dans une autre boutique? Pourquoi est-ce que finalement, et vous avez raison, tous les livres se vendent au même endroit, à la même enseigne,
même
et le capitalisme ne fait pas ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire, c'est un mot affreux d'un travail de niche, où on dit, voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de hiérarchie
presque... D'étiquetage, plutôt, oui.
D'étiquetage, hein, oui, quoi, avec le côté bio du livre, avec les vitamines qu'il contient. Mais ce serait intéressant, c'est curieux de voir cet abandon, alors qu'on devrait au contraire spécialiser les livres, les vendre, du marketing extrêmement pointu. C'est bizarre, non ?
C'est ce que font les libraires quand même, Philippe Villain.
De façon très généraliste.
Tout est mélangé quand même, énormément.
Tout est un peu mélangé. C'est-à-dire que peut-être le problème de la littérature, c'est qu'elle n'assume pas d'être le produit de consommation qu'elle est, en fait.
C'est ça, voilà.
En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire, soit on est un produit de consommation, et dans ce cas-là, tous les produits ne se valent pas, n'ont pas la même valeur, ou soit on n'en est pas un, et dans ce cas-là, tout est.
Mais c'est quoi la différence?
C'est quoi la différence ?
Je sais pas, je pose la question naïvement.
Eh ben, je sais pas. Je pense qu'elle tient à son propos, la littérature, un discours peut-être un peu hypocrite, une sorte de double langage. Parce qu'on sait très bien que tout ne se vaut pas. Il ne suffit pas de publier un livre, évidemment, pour faire de la littérature. Ça serait trop simple. Donc, en revanche, il y a une sorte d'omerta sur cette question.
Qu'est-ce que le projet littéraire ? C'est la question que vous pose finalement Antoine Mercier, mais que voulez-vous poser Olivier Cadio ? En tous les cas, discuter sur cette idée, surtout que Olivier Cadio, dans votre histoire de la littérature récente, il est quand même question de qu'est-ce que c'est que ce fait, même ce processus d'écriture, qu'est-ce qui se passe quand on écrit ? Vous dites par exemple au chapitre tweet, puisque ce sont des courts propos, mais pour réussir immanquablement un grand roman, garder une chose en mémoire, il faut s'imaginer vivre sa vie par séquences et épisodes. Vous dites également dans le chapitre « Je veux écrire ». Qu'est-ce que c'est cette histoire de « je veux écrire » ? C'est une maladie. Mais pourquoi ? D'où ça vous vient ? On vous a dit que ça ne guérissait pas. Et puis surtout, n'oubliez pas que les choses tournent dans l'autre sens que prévu. Si vous le faites vraiment à fond, si vous mettez votre peau sur la table, et ça c'est en italique, vous en arriverez au point où vous ne pourrez presque plus le faire. Pas par impuissance, mais parce qu'on n'écrit pas. On finit par le comprendre. Qu'est-ce que c'est qui vous meut quand vous écrivez? Et donc, qu'est-ce que c'est que le projet littéraire? Et donc, qu'est-ce que c'est que mettre la langue au centre de la réflexion? Là, c'est quelque chose sur lequel tous les deux vous pourriez discuter, Olivier Cadio.
Oui, je ne sais pas si je mets la langue au centre. Je pense que la langue, j'en ai aussi, ça m'a un peu épuisé, la langue, avec un grand, avec une majuscule.
Justement, allez, sans, alors, poésie, sans majuscule.
Si j'y crois, oui, mais le style, vous préférez
voilà,
le style?
Voilà, le style, non. Alors, le style, ça ne me va pas du tout, parce que, ah bon. Bon, même si... non, mais parce que le style... je suis évidemment pour l'idée, l'intensité d'écriture. Mais le mot style fait... pour tout le monde, pour le public, pour le grand public, style, ça veut dire bien écrire, donc c'est un petit peu ambigu. Non, mais je sais, mais pour vous, non, dans votre
style,
projet.
Style au sens de Flaubert, on va dire.
Oui, alors Flaubert, c'est pas le bien écrire non plus. Hein, chez Flaubert, c'est un
truc... Oui, c'est pas ça, mais c'est voilà, ça, le vrai style.
Oui, alors, moi, je dirais, c'est curieusement la manière, le style. Alors, on pourrait dire le style, c'est l'homme, mais au sens vraiment, ce qui est beau dans les livres, c'est en entendre une parole qu'on n'a jamais entendue, une manière d'être, une manière de se comporter, une manière de se présenter, de dialoguer. Et ça, évidemment, ça peut passer par tous les moyens. C'est pour ça que je serais moins sévère avec l'action de l'oral. Pourquoi pas l'oral? Tous les moyens sont bons pour obtenir cette particularité, cette spécialité d'une... Alors, je dirais pas d'une langue, mais d'une présence, quoi. Ou d'une présence-absence. Parce que les livres, il y a des choses. C'est à la fois présent et absent, un livre. C'est bizarre.
Ouais, je suis tout à fait...
Évident.
Donc, le style, je sais pas. Voilà. Je sais pas si c'est un mot facile. Enfin...
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, on dit par style... Style résume en fait beaucoup de choses et on dit une sorte de mot valise aujourd'hui. Et je pense que ce que vous dites sur l'intensité de langage, c'est exactement ça peut-être. C'est peut-être le style aujourd'hui pourrait définir la présence créatrice de l'auteur, c'est-à-dire son identité, sa marque de fabrique. C'est aussi ça qui va différencier et distinguer un écrivain justement de la masse.
Mais regardez, moi, comme je viens de la poésie, encore une fois, je ne sais pas quoi dire, expérimentale, c'est vrai que j'ai été éduqué aussi par des gens pour qui la question de l'illisibilité était aussi une valeur. Alors, ça ne veut pas dire que ces gens-là faisaient des choses illisibles et qu'ils n'avaient pas de valeur, vous voyez, mais qu'au fond, l'illisibilité ou la difficulté de lecture, donc l'opacité du style à un endroit, pouvait produire, du coup, être le signe d'une très belle œuvre. Maintenant, je pense que ce qui a changé, et ce n'est pas nécessairement un signe d'affadissement ou de déclin, je pense que la ligne de qualité, puisqu'il s'agit, votre livre pose la question de la valeur, au fond, ne passe pas nécessairement par la séparation lisible-illisible. Ça ne veut pas dire que je suis postmoderne, je dirais que ça a un peu d'importance, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est, au fond, je vais vous dire la vérité, je ne peux pas prendre position là-dessus quand on est écrivain, vraiment. On a envie de se plonger dans les contradictions de cette histoire. Parce qu'après tout, être écrivain, c'est s'occuper de cette histoire sans être nécessairement malarméen et ne penser qu'à la littérature. Mais être écrivain, c'est se débattre avec ça, tous les jours, et tous les jours, ça change. Enfin, ça change, et l'histoire de la littérature récente ne peut être qu'extrêmement mouvante. Alors le style, pour terminer là-dessus, vous le lancez là-dessus, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire. Est-ce que ça peut, il ne faudrait pas que les gens comprennent ça comme un surcroît de travail, sur un surcroît de qualité, de syntaxique, hein,
non,
une recherche.
Fille vilain.
C'est un peu casse-gueule, hein, pour employer une expression un peu vulgaire, le style. Je dirais, oui, encore une fois, c'est la présence créatrice de l'auteur qui se manifeste justement dans une synthèse de à la fois de l'être, c'est l'être de l'écrivain et en même temps sa maîtrise technique. Voilà, c'est ça, c'est ce qui
maîtrise
ce qui
technique.
Pourrait, la maîtrise technique. Un style suppose une sorte de possession de monde en soi de la littérature.
Ah oui, mais c'est pas
par exemple Marguerite Duras.
C'est pas un problème technique, ça, c'est pas un problème d'artisanat. Là, c'est un problème de
oui,
de générosité, d'énormité mentale. Ça, c'est pas un problème de bien faire.
C'est-à-dire qu'on ne peut forger son style qu'à partir d'une certaine connaissance technique, d'abord une pratique et aussi une connaissance du monde de la littérature, comme Marguerite Duras. Par exemple, Marguerite Duras, on ne retient aujourd'hui que l'écriture courante chez elle, c'est-à-dire la dernière période de son art. Mais Duras, les premiers livres sont des livres traditionnels, académiques, et ensuite elle est passée à une forme de nouveau roman qu'elle a contesté, et ensuite la troisième période, c'est l'écriture courante, celle que reprennent aujourd'hui la plupart de ces épigones. Or, c'est là, je dirais que si Duras avait commencé par cette période-là, on aurait dit que c'était un petit, ça aurait pas été forcément terrible.
Justement, ce qu'elle a fait, Duras, justement, ce qui est intéressant, c'est Duras, c'est qu'on a l'impression qu'elle a elle-même fait ce travail. de ce résumé. Alors ça, des gens peuvent adorer ça, hein, c'est pas un jugement de valeur. Mais du coup, elle a donné les clés de son style. C'est pour ça que ça a été recopiable. Parce qu'elle l'a compressé de telle manière, elle en a fait presque à la manière d'eux. Alors, avant, à la manière elle-même. Presque pour. Et quand elle fait l'amant, enfin, tout le monde est détendu, enfin. Elle a le Goncourt en récompense de cette. Elle dit, OK, ça va maintenant. Elle s'est calmée et au fond, elle devient elle-même sa propre caricature, enfin, si on était désagréable, ou sa propre illustration. Je ne sais pas comment on dire ça. C'est. L'histoire de Duras, c'est terrible. Parce que du coup, ça a servi, enfin, Duras. Ça n'empêche pas les gens de lire Duras, tous les livres, aussi bien le ravissement de Wittgenstein que le dernier. Hein. Mais, enfin, les plus beaux, justement. Alors, La vie matérielle, par exemple, c'est un très beau livre. Alors là, pour vous contredire un peu, regardez comme c'est un livre fait simplement.
Bien sûr, mais non, mais ce que je voulais signifier par là, en fait, c'était pas forcément un jugement de valeur, c'était pour montrer que cette troisième période, en fait, contenait toutes les autres. En fait, elle était l'aboutissement, la finition de toutes ces autres périodes. Et ça, je trouve ça vraiment admirable. En revanche, il me semble que si elle avait commencé par cette troisième période d'écriture courante, ça aurait été peut-être un peu léger.
Mais est-ce que vous trouvez, Philippe Villain, dans votre ouvrage, en tous les cas, dans la littérature sans idéal, vous l'écrivez, c'est que ce que vous regrettez finalement, c'est que les écrivains, certains encore, ne se réfèrent plus au passé littéraire, précisément. Ils ne s'inscrivent plus dans une tradition, dans un héritage, dans une filiation littéraire, ce qui va d'ailleurs avec une littérature que vous appelez du présentisme, et ils se trouvent des filiations entre eux. Donc, à la manière d'eux, c'est aujourd'hui. Et ça, vous regrettez.
Alors, c'est pas que je le regrette, je le constate. C'est-à-dire, j'ai pas du tout encore
c'est
une fois.
C'est vrai qu'on a.
Oui, c'est ça.
Vous voulez pas. Je précise. Parce position, en fait.
Non, c'est pas une position, justement. Mais c'est-à-dire, c'est très étonnant. On ne peut pas questionner la littérature sans être forcément tout de suite catégorisé. Or, ça n'est pas du tout mon propos. Il est évident que lorsqu'on s'attache à des constats un peu sensibles, eh bien, on a des vérités un peu douloureuse, et je suis le premier à les regretter. Donc, pour en revenir à cette question d'idéal historique, oui, il me semble que l'écrivain contemporain n'a pas forcément de conscience historique. Il n'a pas forcément de modèle d'excellence du passé. Pas forcément. Il y a une forme d'écrivain qui puise, c'est un peu autoréférentiel, quoi. Aujourd'hui, on se déclare, épigone de Houellebecq ou je ne sais qui, ou peut-être de BD, et peut-être qu'il y aurait des modèles d'excellence à aller chercher un petit peu plus loin. Mais ça pose une question intéressante, finalement. Qu'est-ce qu'une littérature qui récuse son histoire? Est-ce que cette littérature qui récuse son histoire peut en même temps produire elle-même de l'histoire? Et qu'est-ce qu'un écrivain?
C'est une littérature de son temps, peut-être.
Oui, alors justement, j'allais en venir là. Qu'est-ce que justement un écrivain aujourd'hui? Est-ce que c'est celui qui va incarner son temps? Qui va se borner à incarner son temps? Ou est-ce celui qui va essayer, peut-être vainement, le plus souvent vainement, d'incarner son histoire, d'embrasser un peu, comme je disais avec l'exemple de Duras, qui incarne toute cette histoire littéraire?
Elle incarne un temps sans histoire aujourd'hui.
Exactement.
Voilà. C'est très juste. Il me semble, pour comprendre ce que vous dites, qu'il y a deux niveaux très différents. Alors, vous ne voulez pas être décliniste, mais il me semble que vous l'êtes à tous les niveaux. D'une part, au niveau de l'idéal, c'est-à-dire littérature sans idéal. Vous avez parlé d'idéal politique transcendant qui aurait été abandonné, cette transcendance. Et d'autre part, un idéal immanent de la langue. Vous avez dit parler de l'immanence de la langue, du style qui est aussi en train de dépérir. Je voudrais savoir s'il y a un rapport entre ces deux formes de dégradation idéale et technique dont vous avez aussi parlé.
C'est un peu compliqué. Vous me donnez un sujet de dissertation. J'ai l'impression de retourner à l'université.
Bon,
c'était un peu compliqué de dire ça. Mais encore une fois, je vois pas ce qu'il y a de décliniste là-dedans. Hein. Ça me semble.
On vous entend depuis le début.
Parce que ça
a une petite musique comme ça. Bon, je veux pas du tout.
Non, parce que
ça
vous
pas coller des étiquettes. Mais j'essaie de voir ce que vous dites. Mais vous dites, je vous fais un constat.
C'est un constat.
C'est malheureusement. Une fois que vous avez fait ce constat, est-ce que vous en dites quoi de ce constat?
Je sais pas. Il me semble avoir déjà dit l'essentiel.
Dans le dernier chapitre, Philippe Villain, de la littérature sans idéal, alors là, vous faites une critique vraiment féroce, mais non plus des écrivains et de la littérature sans idéal, mais de tout ce qui va avec. Il rejoint la remarque d'Olivier Cadiot tout à l'heure, hein, ce produit marchand plutôt standardisé qu'autre chose avec cette langue internationalisée, moins conçue comme une création personnelle que comme une reproduction impersonnelle. Et vous l'élargissez parce qu'effectivement, les écrivains qui vendent, les écrivains qui sont aujourd'hui dans les relais H et qui gagnent des prix pour la plupart d'entre eux, qui sont sur les best-sellers, pour le dire clairement, sont fabriqués aussi par une machinerie, qui est une machinerie éditoriale, qui sont ensuite relayées dans les médias. Et vous faites un constat qui est plutôt surprenant là aussi, en disant que ce dont la littérature souffre, c'est moins d'être un produit marchand que d'être un produit standardisé, au prix unique. Et je me suis demandé si, là aussi, vous aviez peut-être une proposition qui serait une remise en cause de la loi langue, ou si ce n'était pas du tout ça que vous sous-entendiez.
Non, c'était effectivement un petit peu provoque de ma part. Mais c'était encore une fois pour manifester l'idée que toute littérature ne pouvait pas être considérée comme littéraire en fait, et que effectivement, et il pouvait. En fait, c'est très étonnant parce que la littérature répugne aux catégories. Or, dans d'autres arts, par exemple au cinéma, on sait, on parle de cinéma commercial et de cinéma d'auteur, mais pas en littérature. On parle pour les arts plastiques aussi, les artistes sont cotés. Ça ne nous choque pas. Ça nous choque pour la littérature. C'est très, très étonnant. Il y a une forme, finalement, de conservatisme dans la littérature qui est tout à fait troublant et étrange, et qu'il n'y a pas dans les autres arts qui sont, justement, qui ont su évoluer avec l'aspect marchand qui correspond à leur art.
La difficulté, c'est peut-être ce que disait Olivier Cadiot tout à l'heure, c'est la limite entre ce qu'on peut considérer du coup comme une vraie littérature et une fausse littérature. Dans quelle catégorie, par exemple, vous mettez les livres d'Olivier Cadiot, qui lui-même dit qu'il fait de la poésie expérimentale, qui vient de la poésie
oui,
expérimentale, et aujourd'hui qui a évolué dans un autre sens. Donc,
pas dans un autre sens.
C'est quoi le critère principal finalement?
J'ai pas dit j'étais expérimental et après j'ai changé d'avis. Non, j'ai simplement eu plusieurs, comme je suis déjà assez âgé, quoi. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait la poésie, j'ai fait des fictions.
Mais donc effectivement c'est difficile parfois d'arriver à mettre un label
de trouver un critère de littérarité. Mais comment fait-on pour le cinéma alors? Pourquoi dit-on que c'est un film d'auteur?
Non, mais pour vous, ouais, comment vous trouveriez le critère?
Mais justement, c'est difficile, mais ça serait de le questionner, mais peut-être changer l'attitude de consommation aussi. Il y a malgré tout, visiblement, à travers des types de narration, des choix de narration, une littérature plus exigeante que d'autres. C'est évident. Il y a une difficulté de lire. Lire Proust, on sent forcément que c'est beaucoup plus difficile, plus exigeant que d'autres, évidemment. Enfin, si vous me dites le contraire, ça me semble.
Non, j'aurais pas le contraire.
Il y aura je suis à la bourre, c'est comme toujours. Je crois que mon réveil me joue des tours. Alors je fonce, je cours. Oh, faudrait qu'on foute la paix. Mais quand je vois tout ce qui me reste comme boulot,
tout ce qui te reste,
moi qui rêve des plages blanches d'Ajaccio, d'un massage, d'une copine, et le reste tu devines. Mais dans mes rêves, y'a du vent. Des guitares couvrent les pleurs des enfants. Rien ne m'étonne plus comme avant. Et quand je vois tout ce qui me reste comme boulot,
tout ce qui te reste,
quand je vois la pile de pages blanches sur le bureau, bah y'aura.
Y'aura plein de plans où tu fais la belle, des couchers de soleil irréels. Y'aura plein de casquettes. Un très bel reçu japonais.
On a parlé de cinéma, on a parlé de littérature, que dire de la chanson, que dire de la musique? On vient d'entendre le nouveau single, Philippe Villain et Olivier Cadio, nous venons d'entendre le nouveau single d'Arnaud Florent Didier, Le Reste tu devines, qui est une reprise de Christopher Cross, Ride Like the Wind. Le clip vient tout juste d'être mis sur internet, clip avec Isabelle Huppert et l'aide de Caroline Champetier. Nouveau single donc d'Arnaud Florent Didier. Merci à tous les deux, nous n'aurons évidemment pas répondu à la question ni fait le tour de la question, donc j'invite les auditeurs à lire vos deux ouvrages, Philippe Villain, La littérature sans idéal, qui vient de paraître aux éditions Grasset, et Olivier Cadio, le premier tome de votre histoire de la littérature récente, paru chez POL. Merci à toute l'équipe, on se retrouve lundi.